Luc chapitre 15. C'est un des passages les plus connus dans toute la Bible. C'est l'histoire du fils prodigue, mais nous pourrions aussi l'appeler l'histoire du père démontrant son amour pour son fils, c'est-à-dire du père compatissant envers un fils ingrat. Et je vais insister aussi, surtout, sur le père. Chapitre 15, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre Luc, chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1. On ne lira pas, mais vous allez voir, on va sortir les versets un par un. Ce qui est important ici de regarder, c'est le contexte. C'était les pharisiens et les scribes qui murmuraient parce que Jésus mangeait avec des pécheurs. Et le texte nous dit ici, le texte biblique, il disait, eh bien, cet homme accueille des gens et mange avec eux. Jésus fréquentait, c'est vrai que Jésus fréquentait tout le monde, peu importe leurs origines ethniques, qu'ils soient riches ou pauvres, il les aimait tous et il les accueillait aussi tous. Il mangeait avec eux, il passait même du temps avec eux. Mais ses dirigeants religieux ici n'aimaient pas cela. Ils disaient que Jésus se compromettait en se mélangeant et en mangeant avec eux. Alors Jésus va leur raconter trois histoires. Ce n'était pas nécessairement pour la foule, mais pour que les pharisiens et les scribes entendent bien l'enseignement qu'il voulait leur donner. Et cet après-midi, bien, je vous invite aussi à ouvrir les oreilles de votre cœur, parce que non seulement le Seigneur Jésus, comme il l'a fait à l'époque, il a transmis trois paraboles pour parler aux pharisiens et pour parler aux scribes, ces mêmes paraboles qui sont qui sont encore aussi efficaces aujourd'hui qu'à l'époque. Eh bien, le Seigneur Jésus veut aussi parler à vos cœurs cet après-midi. Maintenant, la responsabilité, elle est de votre côté. C'est que le Seigneur, il frappe à votre porte, il vous demande d'ouvrir la porte de votre cœur pour pouvoir vous parler. Cet après-midi, ce n'est pas un tête-à-tête que nous avons ensemble, mais c'est un cœur à cœur. Dieu veut s'adresser au cœur de chacun. Il l'a d'abord fait dans le mien en préparant ce message. Et j'espère que ce sera une riche bénédiction pour tous et chacun, et que quand vous quitterez ces lieux, vous aurez l'assurance, la certitude, que le Seigneur Jésus, qui est mort pour vos péchés, ressuscité pour la vie éternelle, eh bien, vous aura visité, vous aura aussi transformé, parce que c'est aussi, ça fait partie de son ministère. Amen. Amen. On va prier. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous réjouissons d'avoir vu ces trois nouveaux baptisés, Seigneur, qui sont passés par les eaux du baptême. Merci, Seigneur, parce que tu fais encore des miracles, Seigneur, dans la vie des gens, malgré leur passé, malgré leurs échecs, malgré, Seigneur, les vies qu'ils ont vécues éloignées de toi. Seigneur, tu es un Dieu qui aime, tu es un Dieu qui veut agir, tu es un Dieu qui veut nous transformer. Et cet après-midi, par la foi, par la puissance de ta parole, Seigneur, nous voulons encore que tu atteignes des cœurs, que tu bouleverses des vies, que tu les transformes, Seigneur, afin qu'ils puissent passer de la mort à la vie et qu'ils puissent débuter une nouvelle vie dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais mes faiblesses, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas cette facilité de parler, et je te prie, Seigneur, de parler à travers ma bouche cet après-midi, afin que ce ne soit pas l'homme qui soit entendu, mais, Seigneur, ton Saint-Esprit qui puisse agir à travers moi et convaincre de péché, de justice et de jugement, et tout ça pour la gloire de ton nom. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alors, Jésus va leur raconter trois histoires. D'abord, cette parabole concernant un homme qui avait 100 brebis. Et qui, lorsqu'il réalisa qu'il en manquait une, va laisser les 99 autres, ou les 99 autres en Belgique, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il va la mettre avec joie sur ses épaules, et il va la récupérer, la ramener dans le troupeau. Et là, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il va donner un grand banquet, parce qu'il avait retrouvé la brebis qui s'était perdue. Et Jésus va leur dire, il y a plus de joie, et notre frère Salvatore l'a dit à quelques reprises cet après-midi dans sa présidence, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Le Seigneur, s'il veut nous parler, s'il nous a laissé sa parole cet après-midi, c'est parce qu'il nous aime. Et j'espère que peu importe ce qui surviendra dans cette salle cet après-midi, vous quittiez ces lieux avec la certitude que Dieu vous aime. Pas à travers mes paroles, gardez vos yeux fixés sur cette croix, elle démontre au monde entier jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Et il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher Pas un de ses 8 fils, pas un de ses 20 fils, son fils unique. Il l'a sacrifié pour des pécheurs comme vous et moi. La punition qu'on méritait pour nos péchés, il l'a pris sur lui. Il n'avait jamais péché. Et en retour, on reçoit la justice qui lui est sienne. Et Dieu l'a puni à notre place. Le message de l'Évangile, il est simple. C'est nous souvent qui le compliquons. C'est nous aussi qui nous compliquons la vie pour essayer de le connaître ou de le saisir et de l'accepter. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous être attentifs à ce que le Seigneur Jésus veut nous raconter. On vit dans un monde qui est difficile et le Seigneur va encore toucher les cœurs pour donner de l'espoir, pour vous fortifier, pour vous encourager, pour vous dire, écoutez, s'il n'y a rien de bon dans cette vie, s'il n'y a rien de bon à attendre dans cette vie, il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a quelque chose parce qu'il y a une vie de l'autre côté et Jésus est revenu de la mort à la vie pour nous montrer qu'il y avait une vie de l'autre côté. Et ma prière, eh bien, c'est qu'on puisse garder les yeux ouverts et nos cœurs, surtout notre cœur ouvert, pour que la parole de Dieu puisse pénétrer dans nos cœurs. Dites amen à ça. Amen. Il raconte cette histoire pour montrer qu'il est le berger qui est venu vous chercher parce que vous êtes peut-être cette brebis perdue cet après-midi. Vous êtes perdu parce que vous vivez sans Dieu. Vous êtes perdu parce que votre vie n'a aucun sens et vous ne savez pas quel chemin prendre pour vous en sortir et vous cherchez des réponses à vos questions. Vous pouvez trouver des réponses à toutes ces questions parce que Jésus est ce bon berger qui est à votre recherche cet après-midi. Il va leur raconter une deuxième parabole. C'est celle d'une femme qui possédait 10 pièces d'argent et qui va perdre une pièce. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allumer, c'est Jésus qui nous en parle, hein, à partir du verset 8, les versets 8 à 10. Elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison, elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve, jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce. Et quand elle l'a retrouvée, elle va appeler ses amis, elle va appeler ses voisins. Et elle va leur dire, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce perdue, j'ai retrouvé la pièce, pardon, que j'avais perdue. » Et Jésus leur dit, « Il y a plus de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et lors de ce baptême aujourd'hui, on s'est pas un spectacle, on s'est réjoui. On s'est réjoui avec les membres de la famille parce que chaque personne qui a été baptisée aujourd'hui représentait une brebis qui était perdue et que Dieu est allé chercher. Amen. Cet après-midi, j'aimerais m'arrêter sur la troisième parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? C'est une histoire qui illustre une vérité spirituelle. Et lorsque Jésus parle aux gens, et quand il parle aux gens aujourd'hui, quand il parlait aux gens à son époque, il leur racontait toujours une parabole afin de leur enseigner une vérité spirituelle. Nous savons que les gens aiment les bonnes histoires, et lorsque Jésus racontait une histoire, les gens se rassemblaient autour. Quelle vie il y avait quand le Seigneur Jésus parlait. Et il nous parle encore aujourd'hui, parce que sa parole, elle est vivante. Il va leur raconter une histoire concernant un père qui avait deux fils. Et il dit un jour, à partir du verset 11, le plus jeune vient voir son père et lui dit, « Père, notre loi dit que l'aîné doit recevoir les deux tiers de la succession lorsque tu mourras, et que le plus jeune doit recevoir en principe, en fonction de cette loi, le plus jeune doit recevoir, eh bien, le dernier tiers, un tiers. » Je ne veux pas attendre que tu meures pour toucher ce qui me revient. Je voudrais avoir ma part maintenant. Je ne sais pas ce que je ferais, moi, si mes quatre enfants venaient me voir et disaient, « Papa, on t'aime bien, mais on n'est pas assez patient pour attendre que tu meures pour toucher notre héritage. » C'était pas facile à entendre. Et c'était pas la façon de faire. Parce qu'habituellement, on attend que la personne meure pour toucher sa part d'héritage. Mais ce jeune homme, elle la voulait tellement parce qu'il ne voulait plus attendre. Il voulait profiter de la vie maintenant et se payer du bon temps. Il voulait goûter maintenant à tout ce que le monde offre comme plaisir. Et finalement, son père, et je suis convaincu que le père avait le cœur rempli de tristesse, son père va lui donner ce qu'il lui a demandé. Probablement que le père va l'avertir des dangers qu'il courait. Mais le jeune garçon ne l'écoutait pas. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à ce pauvre garçon aujourd'hui. Vous avez beau leur dire, mais ils n'écoutent pas. J'ai été le premier, hein, je suis rendu à un certain âge, ou un âge certain. Mais quand ma mère me disait, ça, c'est pas une fille pour toi, maman, tu connais rien. J'étais obligé de lui demander pardon 20 ans après, hein, parce qu'elle connaissait beaucoup de choses. Ouais. Ou on vous donnait un conseil, maman, c'est a changé d'époque, papa, on a changé d'époque. Et les enfants n'ont pas changé, hein, c'est comme ça. Hein. Les parents ne connaissaient rien, les jeunes ne connaissent pas grand-chose, mais ils veulent apprendre par eux-mêmes, mais souvent en vivant des expériences terribles. On m'a raconté l'histoire d'un conférencier qui avait été invité à parler dans une salle à l'hôtel de ville de Pennsylvanie aux États-Unis et qui avait décidé, à partir de son hôtel, de s'y rendre à pied. Ne connaissant pas la ville, il ne lui a suffi que quelques minutes pour se perdre. Il dut demander à un groupe de jeunes qu'il croisa de lui indiquer le chemin pour aller à l'hôtel de ville. Alors, un des garçons lui demanda ce qu'il allait faire rendu sur place. Et il lui répondit, « Écoute, je suis invité à donner une conférence. » Le jeune homme reprit, « Et quel est le sujet de votre conférence? » « Je vais parler comment on peut se rendre au ciel. » Alors, le jeune homme lui dit, « Monsieur, vous plaisantez. Vous ne savez même pas comment vous rendre à l'hôtel de ville. » Dans ce passage, Jésus, c'est ça qui est important, et c'est là qu'on a besoin d'être attentif. Jésus nous dit comment faire pour se rendre au ciel. Lui, il le savait comment s'y rendre, puisqu'il est venu du ciel pour nous dire comment faire pour rentrer dans le paradis, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et il va utiliser cette parabole pour nous montrer comment faire pour rentrer au ciel. Il dit, nous devons nous repentir de nos péchés, nous détourner de notre vaine manière de vivre. Et là, nous serons alors reçus dans la maison du Père. Et lorsque nous agissons ainsi, il dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Qui se repent. Il est impossible de recevoir le pardon de nos péchés si on ne se repent pas. Impossible. Et il y a combien de gens qui acceptent le Seigneur Jésus sans jamais se repentir? La repentance, elle est essentielle pour recevoir le pardon de nos péchés et pour commencer à avoir un changement dans notre vie et passer par une nouvelle naissance. Elle est essentielle. C'était le message de Jésus. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. C'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était le message de Pierre lors du premier message évangélique. Repentez-vous et séparez-vous de cette génération corrompue et perverse. C'était le premier message évangélique. Maintenant, je vous dirai pas ça non plus aujourd'hui parce que je ne lancerai pas comme Pierre, mais simplement vous dire que la repentance, elle est essentielle pour pouvoir avoir accès au ciel. Pourquoi je le répète plusieurs fois? Retenez bien ce que je vais vous dire. La chose la plus difficile à faire de la part d'un pécheur, c'est de se repentir de ses péchés. Les gens préfèrent faire des œuvres pour bien paraître aux yeux des gens, pensant acheter l'amour de Dieu, le salut de Dieu, plutôt que de se repentir. Pourquoi il est difficile de se repentir? Parce qu'il faut piller sur notre orgueil. Et frères et sœurs, ça nous sort par les oreilles, l'orgueil. Jésus, heureusement qu'il n'était pas orgueilleux, ne serait jamais monté sur la croix. Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas tellement la parole de Dieu, Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est le Créateur qui se fait homme dans la personne de Jésus-Christ, qui vient s'humilier pour des gens qui lui ont craché dans la figure, pour des gens qui se sont moqués de lui, pour des gens qui ont baigné dans le péché. Il s'est humilié et sur la croix, il dit, « Je le fais pour toi parce que je t'aime. » Et si tu étais le seul pécheur sur toute la terre, je serais quitté mon ciel céleste pour venir sur la terre pour te sauver. Wow! La repentance. Laissez le Saint-Esprit vous examiner. Vous savez, je vous regarde cet après-midi, vous êtes silencieux, j'ai tous les yeux braqués sur moi. Ça me rappelle la première fois que j'ai entendu un message évangélique qui m'a bouleversé. J'étais perdu et j'ai dû marcher sur mon orgueil pour changer de royaume et appartenir au royaume des cieux. Et je peux témoigner aujourd'hui que le Seigneur est bon. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, le Seigneur, il est bon. Et je vais dire comme Cynthia, gloire à Dieu pour les difficultés, gloire à Dieu pour les épreuves, parce que ça fait de nous de meilleurs chrétiens, ça fait de nous de meilleurs enfants de Dieu. et ça nous amène à s'appuyer uniquement sur Jésus-Christ. Amen. Ah. Je ne sais pas si vous connaissez Fyodor Dostoïevski, probablement un des plus grands romanciers de l'histoire de la Russie, en tout cas du moins au 19e siècle. Cet homme fut envoyé dans un camp de travail. À son arrivée au camp, on aligna tous les prisonniers contre le mur de la prison pour les fusiller. Mais au moment où l'officier s'apprêtait à donner aux soldats l'ordre de tirer, on annonçait que le tsar avait décidé de sursoir à l'exécution des prisonniers et qu'ils étaient transférés dans une prison en Sibérie. Écoutez comment il décrit ce qu'il a vécu dans cette prison. Il dit « Nous étions surveillés par un chien d'Oberman qui couchait dans la baraque avec nous la nuit. Nous devions supporter la puanteur qui se dégageait des prisonniers parce qu'on ne pouvait se laver. Nous devions supporter le froid incroyable qu'il faisait l'hiver et la chaleur insupportable qu'il y avait l'été. » Mais il raconte aussi que pendant qu'il était dans cette prison, des femmes lui ont remis, probablement à travers la clôture du camp, lui ont remis une copie d'un Nouveau Testament. « C'est tout ce que j'ai lu, dit-il, pendant tout le temps que j'ai été détenu. » Et pendant des années, il étudia et il lut le Nouveau Testament, jusqu'à ce qu'il mémorise, écoutez bien ceci, la plupart de tous les versets du Nouveau Testament, dont l'histoire du fils prodigue que nous retrouvons dans Luc chapitre 15 et que vous retrouvez dans tous ses romans. Lisez entre autres les démons, les frères Karamazov, dont il y a eu un film là-dessus. Vous y retrouverez l'histoire du fils prodigue au centre de son roman. Nous avons donc ici l'histoire d'un homme, d'un jeune homme qui était tout excité de jouir de la vie et qui voulait toucher son héritage maintenant. Il ne voulait pas entendre de la bouche de son père ce qu'il devait faire. Il y a quelques années, c'est en anglais malheureusement, mais je vais la traduire en français, il y a une chanson qui a fait fureur aux États-Unis, qui était sur la hit parade pendant des semaines. Le titre c'était « Ne dis pas, ne me dis pas quoi faire ». Et c'est ce que plusieurs jeunes disent à leurs parents, à leurs professeurs et à leurs autorités aujourd'hui. « Ne me dis pas quoi faire. » Et il arrive aussi que quand on regarde au ciel, on dit « Seigneur, ne me dis pas quoi faire. » Et le Seigneur Jésus nous a bien dit « Sans moi, tu ne peux rien faire. » Amen. Ouais. Nos jeunes veulent profiter de la vie et du monde dans lequel nous vivons, mais lorsque nous regardons de près les conséquences d'une vie dissolue, nous pouvons nous demander si ce n'est pas la vie qui profite d'eux. Il y a 1,5 million de personnes qui sont mortes du sida en 2015. 10 millions de personnes ont eu besoin d'un traitement. Et 19 millions sur les 35 millions de personnes infectées ne savent pas qu'elles sont séropositives. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles sans danger, sans aucune limite. Le pire, c'est qu'il y a des femmes qui mettent des enfants enceintes, qui mettent des enfants au monde, et les enfants sont déjà séropositifs. Les bébés payent le prix du péché de leurs parents. Pensons à l'alcool qui est devenu un véritable problème chez nos jeunes. Des boissons à saveur de vanille, des boissons à saveur de chocolat à 20, 30, 40 % 40 degrés d'alcool. Nos jeunes ne goûtent pas au chocolat, ils ne goûtent pas à l'alcool, ils goûtent au chocolat et à la vanille. Il est écrit que peu de jours après, le jeune homme ramassa ses affaires et partit pour un pays éloigné. Et il se fit de nombreux amis parce qu'il avait les poches remplies d'argent. Ce jeune homme avait fui loin de son père. Il fuyait ce qui lui rappelait son passé. Il fuyait Dieu. Et cet après-midi, il y a des gens dans cette salle peut-être qui font exactement la même chose depuis des années, qui fuient Dieu, qui entendent l'Évangile, mais qui fuient Dieu parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner entre les mains de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur vie, comme Cynthia l'a dit tantôt, pour embrasser la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Ce garçon a gaspillé tout son argent et il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien pour subvenir à ses besoins. La parole nous dit, il dissipa tout son bien dans la débauche. Et Isaïe chapitre 55, les versets 2 et 3 nous dit ceci. « À quoi bon dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? » Écoutez-moi bien, vous aurez à manger quelque chose de bon et votre âme se régalera de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi, dit le Seigneur. Écoutez et votre âme vivra, dit le Seigneur. En 1963, lorsque John F. Kennedy se rendit à Dallas, ce fameux jour où il a été tué, il devait faire un discours et dans ce discours, il allait citer ce passage des Écritures. dans Marc chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de réussir dans la vie si finalement il perd son âme pour l'éternité? Vous avez en vous une âme qui est éternelle et vous allez vivre éternellement que vous aimiez cela ou pas. Vous pouvez vous donner la mort, votre corps mourra, mais votre âme, ce qui est quelque chose d'unique dans chaque individu, va vivre éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Vous vous dites peut-être, pasteur, croyez-vous vraiment qu'un enfer existe? Oui, j'y crois parce que Jésus en a parlé. Il n'y en a pas un comme lui qui en a parlé dans la parole. Il nous a dit que le Père nous aimait. Et il n'a pas voulu nous épargner par rapport à l'enfer parce qu'il ne veut pas que personne y aille. Et s'il ne nous avait pas aimés, il ne nous aurait jamais dit que l'enfer existait. Il aurait applaudi de nous voir tous tomber en enfer. Et il est triste de voir des gens qui vont dans des enterrements, qui ne savent même pas où la personne qui est décédée s'en va, et qui applaudissent. Et qui vous disent, ses souffrances sont finies. C'est pas ce que la Bible dit, c'est que ses souffrances commencent pour l'éternité. S'il est mort sans Christ. Et Jésus nous aimait. Et contrairement au diable qui nous raconte toutes sortes de boniments que l'enfer n'existe pas, Jésus, parce qu'il nous aimait, est venu nous dire, écoutez, l'enfer existe et je viens vous dire comment vous en sortir. Je viens vous dire comment passer des ténèbres à la lumière. Je viens vous dire de ne plus être un candidat à l'enfer, mais d'être un candidat pour le ciel. Pas un candidat, mais un élu pour le ciel. Moi, je ne vous forcerai pas, je ne suis pas là pour vous forcer à croire, à vous forcer à croire. Simplement vous demander de garder votre cœur ouvert pour que le Saint-Esprit puisse agir dans votre cœur. Je m'adressais un jour à un groupe de jeunes, la plupart ayant une vingtaine d'années, et j'ai mentionné à un moment donné le mot « enfer ». Cela n'a pas plu à certains, et un d'entre eux est venu me trouver, il était en colère, et il m'a dit « Pourquoi avez-vous parlé de l'enfer? Vous savez que nous ne croyons pas que l'enfer existe. » Je lui ai dit « J'aimerais te poser une question, jeune homme. Supposons que tu vas à l'aéroport de Bruxelles pour prendre un avion qui va t'amener de Bruxelles à Cuba. Et que je te dise qu'il y a 10% de chances que l'avion s'écrase. Embarquerais-tu dans cet avion? » Eh bien, il m'a répondu « Non, je ne m'embarquerai pas dans cet avion s'il y a 10% de chances qu'elle s'écrase. » Je lui ai dit « Est-ce que tu penses qu'il y a 10% de chances que l'enfer existe? » Il n'a pas répondu. Alors, j'ai continué, j'ai dit « Supposons que maintenant qu'il y a seulement 5%, même 1% que cet avion s'écrase, embarquerais-tu quand même dans cet avion? » Il répondit non. Je lui ai répondu, alors je lui ai dit, voudrais-tu maintenant recevoir Jésus-Christ? Il répondit non, je trouve que ce n'est pas mon problème. Chers amis, le problème de ce jeune homme, c'était un problème d'ordre moral et spirituel. Il ne voulait pas abandonner sa vie à Christ. Il ne voulait pas abandonner la vie dans laquelle il baignait pour s'abandonner à Christ. Voilà où était son problème. Il pensait qu'il avait un problème d'ordre intellectuel, mais son problème était plus profond que cela. Et c'est le problème de certains d'entre vous cet après-midi. Jésus dit concernant ce jeune homme qu'il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15 et suivant. Parce qu'une grande famine survint dans le pays. Ayant gaspillé tout son argent, il n'avait pas suffisamment à manger et à boire, il ne pouvait pas trouver d'emploi. De plus, ses amis l'avaient laissé tomber et personne parmi eux ne lui avait offert un emploi ou de l'aide. Finalement, il trouva du travail. Un des habitants du pays l'engagea pour garder les pourceaux dans les champs. Le pire travail pour un jeune homme juif. Aller servir du porc à un musulman. C'est encore pire de faire travailler un juif avec des cochons. Le cochon pour le juif, c'est la pire insulte. C'est pratiquement une malédiction de mettre un juif en contact avec un cochon. Autant c'est sérieux pour un musulman. Autant c'est épouvantable, c'est abominable pour un juif. Et c'est le seul travail qu'il a pu trouver pour ne pas mourir de faim. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier, nous dit la parole, qui mangeait, que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. C'est alors qu'il s'est mis à réfléchir. Et chers amis, peu importe la situation que vous vivez dans votre vie, Dieu veut vous amener à réfléchir. Dieu a voulu m'amener à réfléchir à travers les situations qu'il m'a amené à vivre. pour que je puisse me détourner de mes mauvaises voies et me tourner vers lui. Il y a toujours un but. Dieu est pas, Dieu s'amuse pas à vous nous faire souffrir. Dieu veut nous approcher de lui. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire cette lecture. Tellement qu'on a peur de souffrir, tellement qu'on a peur de vivre des épreuves. On ne voit pas Dieu au-dessus de ça. Et là, le texte nous dit, il a commencé à réfléchir. Étant rentré en lui-même, il commençait à réaliser qu'il était fautif et qu'il avait mal agi. Il avait fait une croix sur son père, il avait fait une croix sur les biens que possédait son père. Il avait désobéi à son père, il avait pratiqué toutes sortes de péchés, loin de son père. La situation dans laquelle il se trouvait lui permettait de réfléchir. Et j'espère que là où vous êtes cet après-midi, en entendant l'Évangile, cela vous permet de réfléchir. Où vous en êtes rendu dans votre vie? Et je m'adresse premièrement à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Est-ce qu'en rencontrant la personne de Jésus-Christ, votre vie a été transformée, a été bouleversée, au point où les péchés que vous pratiquiez avant, c'est terminé? Dans notre ancienne vie, on critique, on médit, on calomnie. Quand on rencontre la personne de Jésus-Christ, c'est terminé. On glorifie, on loue et on adore. Amen! Mon frère, ma soeur, toi qui es passé par les eaux du baptême, est-ce que tu as vécu ce changement-là dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, je t'invite après-midi à garder tes yeux fixés sur la croix et à te repentir. Parce que tu es peut-être sur le chemin large qui mène à la perdition. Et je ferai un appel pour toi à la fin. Pas pour te mettre dans la honte, parce que je t'aime. Vous remerciez le Seigneur lorsqu'il commence à réfléchir, lorsqu'on commence à réfléchir sur notre situation et qu'on réalise qu'on est perdu. Voici le Fils qui dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer à la croix. Tu n'es pas digne d'entrer au ciel. Mais moi, je t'ai rendu digne à travers celui qui a donné sa vie pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut saisir, j'espère, c'est ma prière, c'est la première fois qu'on peut saisir le message de la croix. Si le message de la croix se limite à porter des boucles d'oreilles en forme de croix, ou à porter quelque chose dans le cou qui est une croix, ça ne demeure que de la décoration, mais ça ne nous conduit pas au ciel. Mais si on regarde fixer les yeux sur celui qui était sur cette croix, et qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Alors, je vous fais une promesse, parce que c'est dans la parole de Dieu, vos vies vont être bouleversées, vos vies vont être transformées. Et la seule chose que vous allez regretter, c'est de ne pas avoir connu et rencontré Jésus-Christ avant aujourd'hui. Amen. Je regrette donc de l'avoir rencontré uniquement à 36 ans. Il y a tellement de bêtises que je n'aurais pas faites. Tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Et c'est une grâce qu'on voit un jeune de 17-18 ans qui plonge dans les eaux du baptême un dimanche après-midi et qui reconnaît que c'est un pécheur, qui reconnaît qu'il est perdu sans Dieu. C'est une grâce spéciale, ce que Dieu va lui accorder. Il va avoir le soutien du Seigneur qui puisse garder ses yeux dans la parole, ce cher Ruben. Parce qu'on a tous un appel sur nos vies, chers amis. Proclamer le beau message de l'Évangile. On n'a aucune trace d'arrogance dans ses paroles et de plus, il n'essayait même pas de se justifier, ce jeune homme. Pour ce qu'il avait fait. Il réalisait qu'il avait péché, il faisait confiance à la grande bonté de son père. Le texte nous dit, verset 20, il se leva et alla vers son père. Il a réfléchi, s'il dit, j'ai quelque chose à faire. Il faut que j'aille trouver mon père. Il faut que j'y demande pardon. C'est fort, ça. Vous imaginez comment il a pu réfléchir? Il a pompé un tiers de son héritage, même quand il n'était pas mort. Il a tout dépensé avec des prostituées dans la luxure, dans une vie dissolue. Et là, il reste à peu près que ses caleçons, quoi. Il a tout perdu. Et là, il s'en va vers son père. Et ce qui est extraordinaire dans cette parabole, c'est que le père va l'avoir arrivé avec des vêtements délabrés. Et il va sauter au cou, puis il va l'embrasser. En aucun temps, le père va lui dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu m'as volé mon argent. Et tu viens mendier que j'aie pitié de toi. » En aucun temps, on voit ça dans cette parabole. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Jamais, si vous vous présentez au pied de la croix, vous répondez à l'appel de Jésus-Christ, jamais le Seigneur va vous reprocher vos péchés passés. Tout ce qu'il souhaite, c'est que vous les confessiez pour qu'il puisse les prendre et les balancer et les oublier pour toute l'éternité. C'est ce que Dieu veut faire. Si vous êtes accusé, si vous êtes condamné aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui vous condamne, c'est le diable qui vous condamne, parce que le diable, il veut vous garder avec vous. Et son plus grand rôle au diable, c'est de se faire oublier. Les diables rouges. Les gens se promènent avec des cornes, avec des fourches, et on s'amuse. Et l'enfer, ce n'est pas un jeu. Vous lirez Luc chapitre 16. Il y a un riche qui attend, là, le jugement dernier, qui est juste au séjour des morts et qui souffre terriblement, à tel point qu'il demande à Abraham de quitter le ciel pour aller avertir ses frères de ne jamais aller là où il se trouve. Et il est juste dans le séjour des morts, en attente du jugement dernier. Il n'est pas encore en enfer, c'est épouvantable. Je ne vous parle pas de l'enfer pour vous faire peur. Je vous parle de l'enfer aujourd'hui parce que c'est une réalité. Éternel. Et je vais m'attarder sur le ciel, le paradis, parce que ça aussi, c'est une réalité éternelle. Et on a quelqu'un qui l'a gagné pour nous. Amen. Oui. Se repentir implique un changement d'opinion concernant la nature du péché. Ce changement d'opinion sera suivi par un changement de sentiment que l'on éprouve à l'égard du péché. Je vous donne un exemple d'une vraie repentance. Moi, avant, je commettais un certain péché. J'avais du plaisir, je prenais du plaisir dans ce péché-là. Ça faisait du mal aux autres, mais ça me donnait tellement du bien, ça me faisait tellement du bien, ce péché-là. Je baignais dedans. Et quand j'ai lu l'Évangile, quand j'ai entendu l'Évangile, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ça a été terminé. J'en suis arrivé à me dire comment j'ai pu trouver du plaisir dans ce péché-là. Ça, c'est la nouvelle naissance. Pas « excuse-moi, Seigneur, je t'ai accepté, mais bon, je suis comme avant. » Non, ça, c'est la religion. Quand je regarde ma vie, je ne peux pas croire que j'ai fait tout ça. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que j'ai été aussi méchant. Que Dieu était aussi bon et si patient pour moi. Et il est bon et il est patient pour vous. Dans cette salle, il y a des gens que ce n'est pas la première fois qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils résistent au message. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous ne savez pas demain si vous allez être vivant. Il y a un jeune homme de 18 ans, il y a 5 ans, qui a assisté à un culte un dimanche matin ici. Il y a eu un appel, il n'a pas répondu à l'appel. La semaine d'après, dans les journaux dans la Meuse, on a appris qu'il avait été poignardé dans le carré. Il est mort à 18 ans. J'espère que s'il ne s'est pas levé pour répondre à l'appel, il a quand même pris cette décision pour le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas juste les vieux qui meurent. Il y a des bébés qui meurent. Il y a des jeunes qui meurent. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Verset 20-21 pour ceux qui ont leur Bible. Quand on lit le passage, des fois on pense que c'est le fils qui a couru après le père pour l'embrasser. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et l'embrassa. Chers amis, quand vous êtes rentrés ici, il y a un verbe important ici, son père le vit. Quand vous êtes rentrés dans ce lieu ici cet après-midi, Dieu vous a vu. Dieu a vu votre besoin. Dieu a vu votre cœur. Et comme il a fait pour le Fils, Dieu veut s'approcher de chacun de vous cet après-midi. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Chers amis, Dieu n'est pas en train d'attendre pour vous juger ni pour vous condamner. Dieu vous aime et dans sa compassion, il attend que vous veniez à lui pour vous recevoir à bras ouverts, comme il l'a fait pour le fils prodigue. Je sais qu'un jour viendra où Dieu jugera le monde. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce et Dieu veut vous pardonner. Le mot « grâce » signifie quelque chose que vous recevez et que vous ne méritez pas. Dieu vous offre le pardon de vos péchés aujourd'hui. Dieu vous offre aujourd'hui d'occuper une place au ciel pour l'éternité. Allez-vous l'accepter? Dieu vous offre aujourd'hui de recevoir dans votre cœur sa paix, sa joie. La paix, la joie de savoir que vos péchés sont effacés, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont pris une décision pour Jésus-Christ. Parce qu'il a été condamné à notre place. Et ce, non pas parce que, à cause de ce que nous méritons, mais à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a pris vos péchés, les miens, et il les a déposés sur Jésus. Je vais vous montrer, avec la parole de Dieu, juste une petite illustration. Disons que ça, ce n'est pas la Bible, mais ça, ça représente tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Ça, c'est Jean Cudon. Ça, c'est Jésus-Christ à la croix. Voici la liste des péchés de Jean Cudon après 66 ans. Jésus sans péché. La parole de Dieu m'a dit que Jésus a pris sur lui tous mes péchés. Quand vous acceptez que Jésus ait pris tous vos péchés, voici ce que Dieu voit. Il vous voit à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a subi la condamnation pour tous mes péchés, afin que je puisse être reconnu juste aux yeux de Dieu. Je suis en train de vous parler du message de l'Évangile, chers amis. C'est aussi simple que ça. On ne parle pas de lampion, on ne parle pas de cierge, on ne parle pas de neuvaine, on ne parle pas de monter sans marche à genoux pour effacer nos péchés. Terminé! Eh bien, savez-vous que non seulement la repentance, c'est la chose la plus difficile à faire, mais la deuxième chose, c'est d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui a pris sur lui mes péchés. Je veux tellement les effacer par moi-même. Et la Bible me dit qu'en dehors du sang de Jésus, il est impossible que mes péchés soient effacés. Rappelez-vous cette situation. De quel côté sont vos péchés aujourd'hui? De quel côté sont vos péchés aujourd'hui? S'ils sont de ce côté-là, du côté de Jean Cudon, si vous mourrez cette nuit, vous êtes perdu pour l'éternité. Et si vous avez rencontré Jésus-Christ, vous avez dit oui au message de son évangile, vous avez dit, Jésus, j'accepte que tu aies pris tous mes péchés. Merci de me donner ta paix et ta joie. Amen! Ouais, c'est le message de l'évangile. Rapidement! Vous devez faire un choix aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes trop méchants pour venir à Dieu et vous vous dites, « J'ai fait tellement de mauvaises choses, j'ai commis tellement de péchés que Dieu ne me recevra jamais. » Détrompez-vous, il vous recevra les bras ouverts. Regardez les bras ouverts de Jésus sur la croix. Regardez-le. Ouais. Et regardez l'illustration du Fils prodigue, Dieu qui part en courant, pas pour l'étrangler. Hey, ça doit faire chaud au cœur, ça. Hein? Il doit avoir été surpris, le fils prodigue. Il doit s'attendre à une gifle, une baffe. Hein? Le père le prend. Et le père, c'est... Il représente Dieu dans cette parabole. Et le père, il le prend, il le serre. Et je suis convaincu que le fils, tellement, de manière inattendue, de voir la réaction du père, il devait pleurer sur l'épaule de son père. « Mais je ne mérite pas ça. Mais papa, pourquoi tu me pardonnes? Mais papa, pourquoi tu as oublié tout ce que je t'ai fait de mal? Mais papa! » Pourquoi tu me sers? Parce que je t'aime. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il vous aime. Il veut que tous viennent à la repentance. Il vous aime. Quand il dit qu'il vous aime, il ne vous dit pas pour vous faire plaisir. Il ne vous dit pas pour soulager votre conscience. Il vous aime. Il vous a aimé. Et il vous aime encore. Et il veut aujourd'hui que vous répondiez à son appel. Allez-vous le faire? Plus vous avancez en âge, plus il est difficile de se repentir. Pourquoi? Parce que c'est de reconnaître qu'on s'est trompé toute notre vie sur nos valeurs. Dieu t'accorde une chance encore ce matin, cet après-midi. Dieu t'accorde une faveur cet après-midi. Vas-tu sauter sur cette occasion? N'endurcissez pas votre cœur, ne résistez pas à cet appel que Dieu vous offre cet après-midi. Jésus a dit que lorsque vous venez à lui, il y a une grande joie dans le ciel. Dieu vous attend pour vous accueillir les bras ouverts. Et en terminant, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui purgeait une peine de prison en Pennsylvanie. et à qui on accorda une libération conditionnelle. C'est un fait vécu. Il écrivait à sa femme à qui il avait fait beaucoup de mal, à sa femme une lettre à qui il avait fait beaucoup de mal, et une lettre aussi à ses enfants, qui avaient subi les contre-coups du mal qu'il avait fait. Dans les deux lettres, il leur annonçait qu'il avait été libéré et qu'il sortirait le 15 juillet prochain. « Je suis en prison depuis 8 ans. Voici le contenu de la lettre. Je suis en prison depuis 8 ans et je sais que vous ne voulez pas que je revienne à la maison. Mais peut-être qu'il vous reste encore un peu d'amour pour moi dans votre cœur. Le 15 juillet vers 14 heures, je serai dans le bus. Je passerai devant la maison. Et si vous voulez que je revienne à la maison, placez un drap jaune ou un ruban jaune à l'extérieur et je serai, si vous voulez me recevoir. Sinon, je passerai devant la maison en demeurant dans le bus, en poursuivant ma route, et j'essaierai de me trouver du travail, de m'installer dans une autre ville pour trouver du travail. Je sais qu'il est difficile pour vous d'oublier tout ce que je vous ai fait et ce que je suis. Et je comprends que vous ayez honte de moi parce que toute la communauté sait que j'ai fait de la prison. Le 15 juillet, l'homme monta dans le bus, sortant de prison. Quelques kilomètres plus loin, le bus s'arrêta devant une université pour faire monter un groupe d'étudiants. Et rapidement, les étudiants parlèrent avec l'homme et découvrirent son histoire. Ils étaient captivés par son histoire et ils attendaient que le bus tourne à une certaine intersection pour voir l'endroit où ils avaient vécu et voir s'il y avait un drapeau jaune ou un ruban jaune qui serait accroché à la porte de la maison. Lorsque le bus tourna à gauche quelques minutes plus tard pour emprunter à la rue où habitait l'homme, ils purent voir à au moins 300 mètres de la maison des centaines de rubans jaunes accrochés aux arbres et des draps jaunes qui couvraient tout le toit de la maison. L'homme sortit du bus, fut accueilli à bras ouverts par sa femme et par ses enfants. Les étudiants dans le bus applaudissaient à tout rompre, tellement ils étaient contents. Cet après-midi, chers amis, il y a de nombreux rubans et beaucoup de draps jaunes qui sont éparpillés pour vous dans le ciel. Parce que Dieu vous attend les bras ouverts pour vous dire, « Je t'aime, bienvenue à la maison. » Vous pouvez venir à Christ cet après-midi, sachant qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur, pour un seul d'entre vous qui se répand. Je vais vous demander de faire 2 choses en terminant. La première, c'est celle de reconnaître que vous avez péché contre Dieu et que vous êtes disposé à changer votre manière de vivre pour vivre comme Dieu vous le demande. Et dire, « Oh Dieu, je te demande pardon parce que j'ai péché, que je me repens de mes péchés. » C'est ce qu'on appelle la repentance. Deuxièmement, je vous demande de recevoir Jésus-Christ par la foi dans votre cœur. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous confiez en lui en toutes choses. Vous remettez votre vie entre ses mains parce que vous reconnaissez que c'est lui seul et c'est en lui seul que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Je l'invite à vous lever. Nous allons chanter un cantique.